Chapitre 2 La naissance de Moïse. L'activité de celui qui a le pouvoir de la mort. Cette portion du livre de l'Exode abonde en principes de la plus haute importance concernant la puissance de Satan, la puissance de Dieu et la puissance de la foi. Au dernier verset du chapitre précédent, nous lisons « Le Pharaon commanda à tout son peuple disant « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. » C'est là la puissance de Satan. Le fleuve était le lieu de la mort, et par la mort, l'ennemi cherchait à annuler le dessein de Dieu. De tout temps, le serpent a cherché à attaquer les instruments dont Dieu voulait se servir pour accomplir ses conseils de miséricorde. Que voyons-nous au chapitre 4 de la Genèse ? Si ce n'est le serpent s'attaquant à Abel pour le mettre à mort. Dans l'histoire de Joseph, Genèse 37, on voit encore l'ennemi à l'œuvre, cherchant à faire mourir l'homme choisi de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Il en est de même lors de l'extermination de la semence royale par Athalie, 2 Chroniques 22, lors du massacre des petits-enfants de Bethléem, Matthieu 2, et finalement dans la mort de Christ. Matthieu 27. Dans chacun de ces cas, l'ennemi a cherché à interrompre par le moyen de la mort le cours de l'action divine. Mais, Dieu soit béni, il existe quelque chose au-delà de la mort. Toute l'action de Dieu dans la rédemption se trouve au-delà du domaine de la mort. Et quand Satan a épuisé toute sa puissance, Dieu commence à se manifester. Le tombeau est le terme de l'activité de Satan. Mais là commence l'activité de Dieu. Glorieuse vérité. Satan a la puissance de la mort, mais Dieu est le Dieu des vivants, et il communique une vie qui est au-delà des atteintes et de la puissance de la mort. Une vie à laquelle Satan ne peut toucher. Le cœur du croyant trouve ainsi une douce consolation au milieu d'une scène où règne la mort. Il peut sans effroi contempler Satan déployant son pouvoir, car il peut s'appuyer avec confiance sur l'intervention puissante de Dieu dans la résurrection. Devant la tombe qui vient de se fermer sur un être bien-aimé, il peut recueillir de la bouche de celui qui est la résurrection et la vie, l'assurance d'une glorieuse immortalité. Sachant que Dieu est plus fort que Satan, il peut attendre en paix la pleine manifestation de la force supérieure de Dieu. La foi triomphant de la mort. Les premiers versets de ce chapitre nous offrent un bel exemple de la puissance de la foi. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi. Et la femme conçut et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha 3 mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Et mit dedans l'enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Versets 1 à 4. Cette scène est d'un vif intérêt. Nous y voyons la foi triompher de la mort et permettre au Dieu de résurrection d'agir selon son caractère propre. Sans doute, la puissance de l'ennemi se montre, elle aussi, d'une manière évidente. Il a fallu que l'enfant se trouve placé en principe dans une position de mort. Une épée transperce le cœur de la mère quand elle voit son enfant bien-aimé promis ainsi à la mort. Mais si Satan pouvait agir, si le cœur d'une mère pleurait, celui qui vivifie les morts était derrière la scène et la foi le contemplait là. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Hébreux 11, verset 23. Par cet acte, la mère de Moïse nous montre une admirable leçon. Son coffret de jonc enduit de bitume proclame sa certitude qu'il y avait quelque chose qui, comme autrefois pour Noé, pouvait abriter ce bel enfant des eaux de la mort. En effet, le coffret de jonc était-il seulement une invention humaine ? Le résultat de la prévoyance naturelle, l'inspiration d'un cœur de mère nourrissant l'espérance d'arracher son trésor à la mort? Ou n'est-ce pas plutôt la foi qu'il a construit pour porter en toute sûreté cet enfant au travers des eaux de la mort, à la place qui lui était destinée par le décret immuable du Dieu vivant. Lorsque nous la contemplons penchée sur ce coffret de jonc que sa foi a construit et y déposant son enfant, la mère de Moïse nous apparaît comme une image de la foi de tous ceux qui, autour d'une tombe, savent élever hardiment leur regard vers le Dieu de résurrection, celui qui ne manquera pas de réaliser ses conseils éternels dans une sphère que la mort ne peut atteindre. Quelle pouvait être la valeur de l'ordonnance du roi pour une âme qui possédait cette foi? Quelle importance avait-elle pour celle qui pouvait se tenir calmement à côté de son coffret de jonc et regarder la mort en face? Le Saint-Esprit nous l'apprend. Par la foi, les parents de Moïse ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Hébreux 11, verset 23. L'âme qui sait un peu ce que c'est que la communion avec le Dieu qui ressuscite les morts n'a peur de rien. Elle peut emprunter le langage triomphant de l'apôtre et dire « Où est, ô mort, ton aiguillon ? Où est, ô mort, ta victoire ?» Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Elle peut prononcer ses paroles de triomphe sur le martyr d'Abel, sur Joseph dans la fosse, sur Moïse dans un coffret de jonc, sur la race royale exterminée par la main d'Athalie, sur les petits-enfants de Bethléem mis à mort par l'ordre du cruel Hérode, et par-dessus tout, elle peut les prononcer sur la tombe du chef de notre salut. Mais quelques-uns, peut-être, ne savent pas discerner, dans la construction du coffret de jonc, l'œuvre de la foi. Plusieurs sont peut-être incapables d'aller plus près que la sœur de Moïse, laquelle se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Il est bien évident que la foi de la sœur n'était pas à la hauteur de celle de la mère. Il y avait en elle, sans aucun doute, cet intérêt profond, cette affection réelle, que nous voyons en Marie de Magdala et l'autre Marie, assise vis-à-vis du sépulcre. Matthieu 27, verset 61. Mais il y avait, dans l'auteur du coffret, quelque chose de bien supérieur à l'intérêt ou à l'affection. Il est vrai, la mère ne se tenait pas à distance pour savoir ce qu'on ferait à son enfant, et comme il arrive fréquemment, la grandeur morale de la foi chez elle pouvait paraître comme de l'indifférence. Mais si son affection naturelle ne la retient pas près du lieu de la mort, la puissance de la foi lui avait donné une œuvre plus noble à accomplir en la présence du Dieu de résurrection. Sa foi avait fait place pour lui sur la scène, et il s'y manifesta d'une manière infiniment glorieuse. L'intervention providentielle de Dieu. Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu de roseaux, et elle envoya sa servante qui le prit. Et elle l'ouvrit, et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut compassion de lui, et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Versets 5 et 6. La réponse divine commence ici à se faire entendre à l'oreille de la foi. Dieu était dans tout cela. Que le rationaliste, l'incrédule, l'athée, rit à l'idée d'une intervention divine dans une affaire aussi triviale que celle de la promenade d'une fille de roi. Mais la foi tressaille de bonheur à la pensée que Dieu est dans tout ce qui arrive. Et si jamais l'intervention de Dieu s'est montrée en quelque chose, c'est assurément dans cette promenade de la fille du Pharaon, bien que celle-ci n'en ait rien su. L'une des plus douces occupations de l'âme régénérée est d'admirer l'intervention divine dans des circonstances et des événements dans lesquels un esprit léger ne sait voir qu'un hasard aveugle et un destin cruel. Il arrive parfois que la chose la plus insignifiante devienne un anneau important dans une suite d'événements que le Dieu Tout-Puissant fait concourir au déploiement de ses grands desseins. Ainsi, par exemple, au chapitre 6 du livre d'Esther, vous voyez un monarque païen passant une nuit sans sommeil, circonstance sans doute assez ordinaire pour lui et pour beaucoup d'autres, et cependant, cette circonstance même devient un anneau dans cette longue chaîne d'événements providentiels que nous voyons se terminer par la délivrance du peuple d'Israël opprimé. Il en est de même de la fille du Pharaon dans sa promenade au bord du fleuve. Elle ne songeait guère qu'elle allait concourir à l'avancement du dessein de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Elle était loin de penser que cet enfant qui pleurait dans un coffret de jonc était l'instrument destiné par l'Éternel à ébranler l'Égypte jusque dans ses fondements. Cependant, il en était ainsi. Et sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreux et elle t'allaitera l'enfant ?» Et la fille du Pharaon lui dit, « Va. » Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut son fils. Et elle appela son nom Moïse, et dit, « Car je l'ai tiré des eaux. » Versets 7 à 10. La foi de la mère de Moïse trouve ici sa pleine récompense. Satan est confondu, et la merveilleuse sagesse de Dieu est manifestée. Qui aurait imaginé que celui qui avait dit « Si c'est un fils, vous le ferez mourir » et encore « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve » aurait à sa cour un de ces mêmes fils et un fils comme celui-là. Le diable fut vaincu par ses propres armes, et le pharaon, dont il voulait se servir pour anéantir le dessein de Dieu, fut employé par Dieu pour nourrir et élever ce Moïse qui devait être l'instrument de Dieu pour confondre la puissance de Satan. Vraiment, l'Éternel se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Ésaïe 28, verset 29. Confions-nous en lui avec plus de simplicité, alors notre sentier sera plus heureux et notre témoignage plus efficace. Moïse à l'âge de 40 ans. Préparation au service. En méditant l'histoire de Moïse, il faut considérer ce grand serviteur de Dieu sous le double point de vue de son caractère personnel et de son caractère typique. Il y a, dans le caractère personnel de Moïse, beaucoup de choses à apprendre pour nous. Dieu dut non seulement le susciter, mais encore le former, et de diverses manières, durant une longue période de 80 années. D'abord, dans la maison de la fille du Pharaon, ensuite, derrière le désert. Chapitre 3, verset 1. À nos esprits bornés, 80 ans paraissent un temps bien long pour l'éducation d'un serviteur de Dieu. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu savait que ces 2 fois 40 ans étaient nécessaires à la préparation de celui qu'il avait choisi. Quand Dieu fait l'éducation de quelqu'un, il l'a fait d'une manière qui est digne de lui-même et de son service. Le serviteur de Dieu doit apprendre plus d'une leçon. Il doit passer par plus d'un exercice et soutenir plus d'une lutte en secret avant d'être véritablement propre pour agir en public. L'homme naturel n'aime pas cela. Il aimerait mieux jouer un rôle en public plutôt que d'apprendre en secret. Il aimerait mieux être l'objet de l'admiration des hommes plutôt que d'être discipliné par la main de Dieu. Mais il faut que nous suivions le chemin de Dieu. L'homme naturel peut bien se précipiter dans le champ de l'action, mais Dieu n'en a que faire là. Il faut qu'il soit brisé, consumé, mis de côté. Le lieu de la mort est la place qui lui convient. S'il veut agir, Dieu, dans sa fidélité et sa sagesse parfaite, conduira les choses de telle manière que le résultat de cette activité tournera à la complète confusion de l'homme. Dieu sait ce qu'il faut faire de la chair. Il sait où elle doit être placée et où elle doit être retenue. Puissions-nous tous entrer plus profondément dans les pensées de Dieu à l'égard du « moi » et de tout ce qui s'y rapporte. Ainsi, nous tomberons moins souvent dans l'erreur. Notre marche sera ferme et moralement élevée, notre esprit paisible et notre service efficace. Et il arriva en ces jours-là que Moïse étant devenu grand, sortit vers ses frères, et il vit leur fardeau. Et il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Et il regarda çà et là, et vit qu'il n'y avait personne, et il frappa l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Versets 11 et 12. Moïse montre ici du zèle pour ses frères, mais non pas selon la connaissance. Romains 10, verset 2. Le temps fixé par Dieu pour le jugement de l'Égypte et la délivrance d'Israël n'était pas encore venu. Or le serviteur intelligent attend toujours le temps de Dieu. Moïse, devenu grand, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. De plus, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main. Actes 7, versets 22 à 28. Tout cela était vrai. Néanmoins, il est évident que Moïse courut avant le temps. Et quand il en est ainsi, la chute est proche. Et non seulement la chute à la fin, mais encore l'incertitude, le manque de calme et de dépendance dans l'accomplissement d'une œuvre commencée avant le temps de Dieu. Moïse regarda çà et là. Quand on agit avec Dieu et pour Dieu dans la pleine intelligence de ses pensées quant aux détails de l'œuvre, on n'a pas besoin de regarder çà et là. Si le temps de Dieu avait été réellement là, si Moïse avait eu en lui-même la conscience qu'il avait reçu de Dieu la mission d'exécuter le jugement sur l'Égyptien, s'il avait été sûr que Dieu était avec lui, il n'aurait pas regardé çà et là. Dans le discours d'Étienne devant le Sanhédrin, on trouve une allusion à l'acte de Moïse sur laquelle il peut être bon de dire quelques mots. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Or, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent point. Acte 7, versets 23 à 25. Il est évident que le but d'Étienne est ici de rappeler, dans l'histoire de la nation, quelques faits propres à agir sur les consciences de ceux qui étaient devant lui. Or, il aurait été tout à fait contraire à ce but, et contraire aussi à la règle de l'Esprit dans le Nouveau Testament, de soulever la question de savoir si Moïse n'avait pas agi avant le temps ordonné de Dieu. En outre, il se borne à dire « il lui vint au cœur de visiter ses frères ». Il ne dit pas que Dieu l'envoya à cette époque. Cela ne touche pas non plus à la question de l'état moral de ceux qui le rejetèrent. Ils ne comprirent pas. Tel est le fait quant à eux, quelles que soient les leçons que Moïse puisse avoir personnellement à apprendre sur ce sujet. En considérant Moïse comme type, nous pouvons voir dans cet épisode la mission du Christ envers Israël, son rejet par les Juifs qui disent « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». En considérant Moïse personnellement, nous voyons que, comme d'autres, il a commis des erreurs et manifesté des infirmités. Parfois il voulait aller trop vite ou trop fort, et parfois trop lentement ou trop lâchement. Tout cela est facile à comprendre, et ne tend qu'à magnifier la grâce infinie et la patience inépuisable de Dieu. La crainte de l'homme. L'acte de Moïse à l'égard de l'Égyptien renferme une leçon profondément pratique pour tout serviteur de Dieu. Deux choses le caractérisent, la crainte de la colère de l'homme et l'espoir d'obtenir la faveur de l'homme. Or, le serviteur de Dieu ne devrait s'inquiéter ni de l'une ni de l'autre. Qu'importe la colère ou la faveur d'un pauvre mortel à quiconque est investi d'une mission divine et jouit de la présence de Dieu. Ne t'ai-je pas commandé ? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Et toi, s'interromps, et lève-toi, et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois point effrayé d'eux, de peur que moi je ne t'épouvante devant eux. Et moi, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, et comme une colonne de fer, et comme des murailles d'airain, contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs, et le peuple du pays. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie 1, versets 17 à 19. Placé sur ce terrain élevé, le serviteur de Christ ne regarde pas çà et là. Il agit selon le précepte, que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Proverbe 4, verset 25. La sagesse divine nous conduit toujours à regarder en haut et en avant. Il y a du mal en nous et nous ne sommes pas sur le vrai terrain du service de Dieu, soyons-en sûrs, quand nous regardons autour de nous, que ce soit pour éviter les regards courroucés de nos semblables ou pour rencontrer les sourires de leur approbation. Nous n'avons pas l'assurance que notre mission est d'autorité divine et que nous jouissons de la présence de Dieu, choses qui, toutes deux, sont absolument nécessaires à tout serviteur de Dieu. Un grand nombre de personnes, il est vrai, soit par ignorance, soit par une confiance excessive en elles-mêmes, entrent dans une sphère d'activité à laquelle Dieu ne les destinait pas, et pour laquelle, par conséquent, il ne les avait pas qualifiées. Et malgré cela, elles montrent un sang-froid et une possession d'elles-mêmes étonnants. Mais toute cette belle apparence fait bien vite place à la réalité. En fait, rien ne peut réellement délivrer un homme de la tendance à regarder ça et là, si ce n'est la conscience d'une mission de Dieu et de la présence de Dieu. Celui qui possède ces deux choses est entièrement délivré des influences humaines. Il est indépendant des hommes. Et nul n'est en état de servir les autres s'il n'est pas entièrement indépendant d'eux. Seul celui qui connaît sa vraie place peut s'abaisser pour laver les pieds de ses frères. Si nous détournons nos regards de l'homme et que nous les portions sur le seul fidèle et parfait serviteur, nous ne le voyons pas regarder ça et là, pour la raison bien simple que ses yeux n'étaient jamais arrêtés sur les hommes, mais toujours sur Dieu. Jésus ne craignait pas la colère de l'homme, ni ne recherchait sa faveur. Il n'ouvrit jamais la bouche pour obtenir les applaudissements des hommes. Il ne se tut jamais pour éviter leur blâme. C'est pourquoi toutes ses paroles et toutes ses actions étaient empreintes d'élévation et de fermeté. Il est le seul dont on ait pu dire avec vérité « Sa feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. » Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il faisait prospérait, parce qu'il faisait toutes choses pour Dieu. Tous ses actes, toutes ses paroles, tous ses mouvements, ses regards, ses pensées ressemblaient à une belle corbeille de fruits réjouissant le cœur de Dieu. Il n'avait jamais aucune crainte quant au résultat de son œuvre, parce qu'il agissait toujours avec Dieu et pour Dieu et dans une pleine intelligence de ses pensées. Il a pu dire « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, verset 38. C'est pourquoi il rendait son fruit en sa saison. Il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père, Jean 8, verset 29, et par conséquent n'avait jamais rien à craindre, jamais besoin de se repentir ou de regarder ça et là. À cet égard, comme à tout autre, le bienheureux maître forme un contraste frappant avec les plus éminents de ses serviteurs. Moïse même eut peur, verset 14, et Paul eut du regret, 2 Corinthiens 7, verset 8. Le Seigneur Jésus n'eut jamais ni peur ni regret. Il n'eut jamais à revenir sur ses pas, ni à retirer une parole, ni à rectifier sa pensée. Tout en lui était parfait d'une manière absolue, tout était du fruit en sa saison. Sa volonté était parfaitement soumise. Les hommes les meilleurs et les plus dévoués commettent des erreurs, mais il est certain que plus notre propre volonté sera brisée, moins nous en commettrons. Quel bonheur quand notre sentier est réellement un sentier de foi et de sincère dévouement à Christ. Le chemin de la foi. Ainsi marchait Moïse. Il était un homme de foi, un homme qui se pénétrait de l'esprit de son maître et qui marchait sur ses traces avec une fermeté et une constance merveilleuses. Il anticipa de 40 années, il est vrai, le temps fixé par Dieu pour le jugement de l'Égypte et la délivrance d'Israël. Cependant, nous ne voyons pas qu'il soit fait mention de ce fait dans le commentaire inspiré que nous trouvons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il n'est question que du principe divin sur lequel, en somme, sa marche était fondée. Par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, versets 24 à 27. Ce passage nous présente la conduite de Moïse d'une manière pleine de grâce. C'est toujours ainsi que le Saint-Esprit trace l'histoire des saints de l'Ancien Testament. Quand il écrit l'histoire d'un homme, il nous le montre tel qu'il est, avec toutes ses fautes et toutes ses imperfections, Mais quand, dans le Nouveau Testament, il commente cette même histoire, il se borne à faire connaître le vrai principe et le résultat général de la vie de cet homme. Ainsi, bien qu'il soit rapporté dans l'Exode que Moïse regarda çà et là, qu'il eut peur et dit certainement le fait est connu, et enfin que Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que ce que Moïse fit, il le fit par la foi, ne craignant pas la colère du roi, et qu'il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Il en sera bientôt de même quand le Seigneur viendra et qu'il mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs. Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est là une vérité bien consolante et bien précieuse. Le cœur peut former plus d'un dessein que, pour diverses raisons, la main est incapable d'exécuter. Tous ces desseins seront manifestés quand le Seigneur viendra. Les conseils d'amour d'un cœur qui lui est attaché sont bien plus précieux à Christ que les œuvres extérieures les plus parfaites. Celles-ci pourront briller aux yeux des hommes et faire l'objet de leurs discours, mais les premiers ne sont que pour le cœur de Jésus, et ils seront manifestés devant Dieu et devant les anges. En étudiant la vie de Moïse, nous voyons que la foi lui fit suivre une route totalement opposée au cours naturel de la vie. Elle le porta non seulement à mépriser tous les plaisirs et tous les honneurs de la cour du Pharaon, mais encore à abandonner un champ d'activité utile, en apparence très étendu. Les raisonnements des hommes l'auraient conduit dans une voie tout à fait contraire. Ils l'auraient porté à user de son influence en faveur du peuple de Dieu et à agir en faveur de ce peuple, plutôt qu'à souffrir avec lui. Selon le jugement de l'homme, la Providence semblait avoir ouvert à Moïse un champ de travail étendu et très important. En effet, si jamais quelqu'un a été manifestement placé par la main de Dieu dans une position toute particulière, c'est bien Moïse. Ce fut par une intervention merveilleuse et par un enchaînement de circonstances révélant la main du Tout-Puissant que la fille du Pharaon devint l'instrument par lequel Moïse fut retiré des eaux et élevé jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge de 40 ans. Acte 7, verset 23. En de pareilles circonstances, l'abandon de sa haute position et de l'influence qu'elle lui permettait d'exercer n'était-elle pas le résultat d'un zèle déplacé? Ainsi raisonnerait notre pauvre nature aveugle. Mais la foi pensait autrement. Car la nature et la foi sont toujours en opposition l'une avec l'autre. Et peut-être n'y a-t-il rien sur quoi elles diffèrent davantage que sur ce qu'on appelle généralement les directions providentielles. Le cœur naturel envisagera toujours ces directions comme des autorisations pour se laisser aller à ses propres penchants, tandis que la foi les considérera comme autant d'occasions de renoncement à soi-même. Jonas aurait pu voir, dans la rencontre d'un navire allant à Tarsis, une direction claire de la Providence. En fait, ce fut une porte par laquelle il se détourna du chemin de l'obéissance. Sans doute, c'est le privilège du chrétien de voir la main et d'entendre la voix de son Père en toutes circonstances. Mais le chrétien qui se laisse conduire par elle ressemble à un navire sans boussole et sans gouvernail. Il est à la merci des vagues et des vents. La promesse de Dieu à son enfant est « Je te conseillerai ayant mon œil sur toi ». Psaume 32, verset 8. Et sa parole d'avertissement, ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est l'abri dès le mort, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Verset 9. Or, il vaut mieux être guidé par l'œil de notre Père que par le mort et le frein des circonstances. La puissance de la foi se montre constamment dans le refus et l'abandon de ses prétendues directions providentielles. Il en fut ainsi pour Moïse. Par la foi, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, et par la foi, il quitta l'Égypte. S'il avait jugé selon la vue de ses yeux, il aurait saisi la dignité qui lui était offerte comme un don manifeste de la Providence, et il serait resté à la cour du Pharaon, où, en apparence, la main de Dieu lui avait préparé un vaste champ de travail. Mais comme il marchait par la foi, et non par la vue, il abandonna tout. Quel exemple à suivre! Et remarquez que ce que Moïse estima un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, c'était non pas seulement l'opprobre pour Christ, mais l'opprobre du Christ. Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Psaume 69, verset 9. Le Seigneur Jésus s'identifia en parfaite grâce avec son peuple. Quittant le sein du Père et déposant toute la gloire dont il était revêtu, il descendit du ciel. Il se mit à la place de son peuple. Il confessa les péchés des siens et porta leur jugement sur le bois maudit. Tel fut son dévouement volontaire. Il ne se borna pas à agir pour nous, mais il prit sa place ici-bas avec nous, afin de nous délivrer de tout ce qui pouvait être contre nous. Nous voyons de cette manière à quel degré Moïse, dans ses sympathies, entrait dans les pensées et les sentiments du Christ à l'égard du peuple de Dieu. Placé comme il l'était, au milieu de tout le bien-être et de la gloire de la maison du Pharaon, là où les délices du péché et les richesses de l'Égypte abondaient, il aurait pu vivre et mourir dans l'opulence, entouré de la faveur royale. Mais ce n'aurait pas été la foi, ce n'aurait pas été conforme à Christ. De la position élevée qu'il occupait, Moïse vit ses frères courbés sous le poids des fardeaux qu'on avait mis sur eux, et par la foi, il comprit que sa place était avec eux. Oui, avec eux dans leur opprobre, dans leur servitude, dans leur affliction et leur avilissement. S'il n'avait été mu que par un sentiment de philanthropie ou de nationalisme, il aurait pu faire valoir son influence personnelle en faveur de ses frères. Il serait parvenu peut-être à engager le Pharaon à diminuer le fardeau sous lequel il les accablait et à leur rendre la vie plus douce. Mais une voie pareille ne sera jamais celle d'un cœur en communion avec le cœur de Christ et ne le satisfera jamais. Or, tel était, par la grâce, le cœur de Moïse. C'est pourquoi, avec toute l'énergie et toutes les affections de ce cœur, il se jeta, corps, âme et esprit, au milieu même de ses frères opprimés, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et c'est par la foi qu'il agit ainsi. Pesez bien ceci, cher lecteur. Nous ne devons pas nous contenter de désirer le bien du peuple de Dieu, de nous employer pour lui, ou de parler avec bienveillance en sa faveur. Nous devons nous identifier pleinement avec lui, quelque méprisé et persécuté qu'il puisse être. Un esprit généreux et bienveillant peut trouver une certaine satisfaction à défendre le christianisme, mais c'est quelque chose de tout à fait différent que de s'identifier avec les chrétiens et de souffrir avec Christ. C'est une chose d'être un protecteur, et c'en est une tout autre d'être un martyr. Ces deux attitudes sont distinguées d'un bout à l'autre de l'Écriture. Abdias prit soin des témoins de Dieu, mais Élie fut un témoin pour Dieu. 1 Roi 18, versets 3 et 4. Darius était si attaché à Daniel que, à cause de lui, il passa une nuit sans sommeil. Mais Daniel passa cette même nuit dans la fosse, au lion, comme témoin de la vérité. Daniel 6, verset 18. Nicodème hasarda une parole pour Christ, mais une plus mûre connaissance du Maître l'aurait porté à s'identifier avec lui. Jean 7, versets 50 et 51. Ces considérations sont éminemment pratiques. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de protecteurs. Il veut des compagnons. La vérité qui le concerne nous est révélée, non pas pour que nous prenions la défense de sa cause sur la terre, mais pour que nous ayons communion avec lui dans les cieux. Il s'est abaissé vers nous, en payant le prix immense de tout ce que l'amour pouvait donner. Il n'y était pas obligé. Il aurait pu garder sa place éternelle dans le sein du Père. Mais alors, comment le fleuve d'amour qui était retenu dans son cœur aurait-il pu descendre jusqu'à nous, pécheurs coupables et dignes de l'enfer? Entre lui et nous, il ne pouvait y avoir d'unité qu'à des conditions qui exigeaient de sa part l'abandon de toute chose. Et il s'y est volontairement soumis. Il s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Il n'a pas voulu jouir tout seul de sa gloire. Il a voulu satisfaire son cœur aimant en s'associant plusieurs fils dans cette gloire. « Père, dit-il, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean 17, verset 24. Telles étaient les pensées de Christ à l'égard de son peuple. Sans contredit, Moïse participait à un haut degré de l'esprit de son maître. Il montra cet esprit en sacrifiant ses avantages personnels et en s'associant sans réserve au peuple de Dieu. Le caractère typique de Moïse. Dans le chapitre suivant, nous aurons à considérer de nouveau le caractère personnel et les actes de ce grand serviteur de Dieu. Mais nous allons le considérer maintenant comme type du Seigneur Jésus. D'après ce que nous lisons en Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Voir acte 7, verset 37. Il est évident que Moïse est un type de Christ. Dans les derniers versets du chapitre 2, ce type nous est présenté sous un double aspect. D'abord dans sa réjection par Israël, verset 14, et acte 7, versets 27 et 28. Ensuite dans son union avec une étrangère du pays de Madian, versets 21 et 22. Nous avons déjà quelque peu développé ces deux points dans l'histoire de Joseph, qui, rejeté par ses frères, s'unit à une femme égyptienne. La réjection de Christ par Israël et son union avec l'Église sont représentées en figure dans l'histoire de Joseph, comme dans celle de Moïse, mais sous des aspects différents. Dans l'histoire de Joseph, on voit la manifestation de l'inimitié contre sa personne. Dans celle de Moïse, il s'agit plutôt du rejet de sa mission. De Joseph, il est écrit « Il le haïssait et ne pouvait lui parler paisiblement. » À Moïse, ils dirent « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» En un mot, le premier fut personnellement haï, le dernier publiquement rejeté. Il en est de même dans le grand mystère de l'Église évoqué par l'histoire de ces deux saints de l'Ancien Testament. Asnath représente une phase de l'Église toute différente de celle qui est représentée par Séphora. Asnath fut unie à Joseph pendant le temps de son exaltation. Séphora fut la compagne de Moïse pendant le temps de sa vie obscure au désert. Comparez Genèse 41, versets 41 à 45, avec Exode 2, verset 15, et 3, verset 1. Joseph et Moïse étaient tous deux rejetés par leurs frères à l'époque de leur union avec une étrangère. Mais le premier était gouverneur sur tout le pays d'Égypte, tandis que le dernier paissait un troupeau derrière le désert. Ainsi, que nous contemplions Christ manifesté en gloire ou caché à la vue du monde, l'Église lui est intimement associée. Et de même que le monde ne le voit pas maintenant, il ne peut pas non plus discerner ce corps qui est un avec lui. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 1. Bientôt, Christ apparaîtra dans sa gloire et l'Église apparaîtra avec lui. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Colossiens 3, verset 4. Et encore, « La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Jean 17, verset 22 et 23. Telle est la haute position de l'Église. Elle est une avec celui qui est rejeté du monde, mais qui occupe le trône de la majesté dans les cieux. Le Seigneur Jésus s'est rendu responsable pour elle sur la croix, afin qu'elle partage sa réjection présente et sa gloire à venir. Que tous ceux qui font partie d'un corps aussi glorieusement privilégié soient plus profondément conscients de la marche qui leur convient et du caractère qu'ils doivent revêtir ici-bas. Les enfants de Dieu devraient répondre tous plus pleinement et plus nettement à cet amour dont il les a aimés, à ce salut qu'il leur a donné et à cette dignité dont il les a revêtus. La marche du chrétien devrait toujours être le résultat naturel d'un privilège compris et réalisé, non le résultat forcé de promesses et de résolutions légales. Le fruit naturel d'une position connue et dont on jouit par la foi. Non le fruit des propres efforts de l'homme pour arriver à une position par des œuvres de loi. Tous les vrais croyants sont une partie de l'épouse de Christ. Ils doivent donc à Christ les affections qui conviennent à cette relation. On n'entre pas dans la relation à cause des affections, mais les affections découlent de la relation. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, de tout ton peuple bien-aimé, que tu as racheté au prix de ton sang.